Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Énervé, le magazine de la bonne double soirée qui commence tous les jours à 18h, oui, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, et qui revient comme une chanson populaire, 22h minuit, à l'antenne cette fois, comme tout le monde. Ce soir, une émission Le Poumon avec Daniel Auteuil en malade imaginaire, retour à Molière en pleine santé, et il en faut pour jouer ce grand hypochondriaque. En fait, vous pétez la forme sur scène.
Oui, c'est un... c'est un choix, c'est-à-dire je pense que je suis fidèle à Molière en étant totalement comme ça au premier degré, en racontant l'histoire d'un type qui n'est pas malade et qui se croit malade et qui manipule les autres avec sa maladie. Mais...
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés, Nicolas Gardère, l'homme qui tombe à pic pour les causes les plus politiquement moins correctes. Il signe Voyage d'un avocat au pays des infréquentables, un homme de gauche qui devient avocat à cause de Jean-Marie Le Pen. Ça raconte quelque chose du métier et de vous, Nicolas Gardère. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci. Oui, je crois.
Oui, on va y venir. Oui, je crois aussi. Soro Solo, à vie du pays. Vous revenez du Cap Vert pour l'Afrique en solo, la chronique ce soir.
C'est du Cap Vert justement, parce que mon album de chevet depuis le mois de février, c'est l'album Manga de la capverdienne Mayra Andrade.
On en parle tout à l'heure. Et dans le Énervé, la suite avec Benoît Lagan, journalisme politique, retour à la campagne. Ça veut dire qu'on prend de l'avance ?
Non, pas tout à fait. On va prendre aussi du recul. En fait, 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, à l'heure des élections européennes et au moment où l'agenda médiatique du président est complètement chamboulé, on s'intéresse à la façon dont les journalistes politiques travaillent. Et pour en parler, ça tombe bien, on a Audrey Gordon, documentariste qui signe Première Campagne, qui sort au cinéma aujourd'hui. Elle sera accompagnée par le personnage central de son film, Astrid Mesmorian, journaliste politique à France Télévisions. Et puis on a convié à leur côté Yann Lénoré, documentariste lui aussi, celui qui avait réalisé Emmanuel Macron, Les coulisses d'une victoire, diffusée au lendemain de la victoire du président.
Mais parfait, on retrouvera tout ce beau monde tout à l'heure. Le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un malade imaginaire et un avocat du politiquement incorrect. Deux personnages avec nous ce soir, Daniel Auteuil et Nicolas Gardère. Vous connaissiez ?
Non, je ne connaissais pas, mais en tout cas, Molière nous connaît parce que Molière a bien traité les avocats.
Ah aussi. Oui. Aussi bien que les médecins.
Aussi, de la même façon.
De la même façon. Vous connaissez Daniel Auteuil, vu au cinéma.
J'admire beaucoup ouais. Daniel Auteuil. Je disais tout à l'heure, avant l'émission, hors antenne, que je l'avais trouvé absolument surnaturel dans L'Adversaire, sûrement mon film préféré avec lui, son interprétation de Jean-Claude Roman. Je la trouve géniale, vraiment.
C'est un personnage qui vous hante toujours. On pose ça comme question généralement. Non, les personnages ont fini une fois qu'on a tourné un film. J'ai l'impression que celui-ci avait été vraiment important dans votre parcours.
Oui, il était important parce que c'est un personnage réel.
Ouais.
Ensuite parce que il trimballait des choses qui nous appartiennent tous. J'ai traité le mensonge dans ce film. J'ai pas traité les meurtres. Je m'en suis pas. C'était trop lourd pour moi de m'occuper de ça. Mais je me suis trimballé avec l'idée d'un type qui aurait pu réussir sa vie s'il avait pas eu cette névrose ou cette maladie avant, quoi. C'est-à-dire que il avait absolument toutes les capacités pour vivre en vrai ce qu'il n'a pas vécu.
Ça avait passionné l'avocat que vous êtes.
Déjà parce qu'il y a la dimension judiciaire, disons.
Ah oui, de l'affaire. L'affaire roman.
C'est une affaire criminelle. Mais au-delà de ça, au-delà du thème qui m'intéressait forcément, je trouvais que vraiment le jeu, en tant que tel, l'interprétation de Daniel Auteuil, qui est un acteur que j'aime beaucoup par ailleurs, avec d'autres bien sûr, mais sur ce film-là, d'ailleurs j'avais été très déçu à l'époque, même si je ne sais pas que les Césars, c'est un peu le cadet de mes soucis, mais j'étais heureux qu'il soit nommé parmi aux meilleurs acteurs, mais qu'il n'ait pas eu le César. Je trouvais ça incroyable parce que je trouvais que son interprétation était, oui, je vous dis, surnaturelle. Je n'arrivais même pas à voir le jeu. Je trouvais que c'était une sorte de symbiose parfaite avec le personnage. Il était plus Jean-Claude Roman que Jean-Claude Roman lui-même. Enfin, c'était
ça foutait la trouille.
Ouais. Oui, ça foutait la trouille. Oui. Et effectivement, c'est un film que j'ai porté lourdement en moi après qu'il ait été terminé, et en souhaitant que le film sorte vite pour pouvoir vous en échapper.
Oui,
et puis vous le donner à vous, quoi. Voilà.
Vous avez joué des rôles d'avocat. Professeur de droit, c'était dans Le Brio avec Camilla Jordana.
Oui.
Et des avocats.
Oui, j'ai joué.
Ah bon,
oui.
J'ai regardé.
Si, mais c'était juste le prétexte. C'était surtout un homme, un bourreux, qui avait pour profession d'être avocat. C'était une comédie légère de Molinaro qui s'appelait L'amour en douce, où j'étais un jeune avocat. Ouais.
Déjà fait du théâtre, vous, Nicolas Gardère, de votre côté ?
Non, pas du tout. À l'école du barreau. Oui. Je m'en étais plutôt bien sorti d'ailleurs, je crois, à l'époque. Mais sinon, non, non.
Bon nombre de vos collègues vont du côté du théâtre Dupont-Moretti, qui avait un spectacle il n'y a pas si longtemps.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il s'en est très, très bien tiré. Bien sorti, il était attendu au tournant, il a fait ça très bien. C'est un garçon très, très doué, Dupont-Moretti. Non, quand j'étais plus jeune, j'étais trop timide pour en faire. Et puis, on me l'a suggéré quelques fois, mais je ne sais pas, je ne me sens pas légitime à. Et puis j'ai pas le temps.
Ouais. En tout cas, moi, je peux vous dire que je n'irai pas plaider.
Nous rassurer.
Chacun son truc.
Chacun son truc.
Et puis, je vous cache pas pour compléter que
Nicolas Garner.
M'est arrivé quelques fois d'aller voir quelques amis, ils me pardonneront, jouer dans des troupes amateurs. J'ai un peu de mal parfois avec le théâtre, disons, non professionnel. J'aime le théâtre joué par des professionnels de grande qualité.
Quand il est bien fait.
Le théâtre amateur, j'ai un peu de mal.
Et il y a beaucoup d'avocats qui se commettent du côté du théâtre amateur. J'ai pu voir quelques pièces aussi, pas très loin d'ailleurs.
Je pensais notamment à des confrères.
Mais ce qui est impressionnant aussi, sans parler là, c'est certains grands criminels ou certains grands types accusés qui se défendent eux-mêmes. Qui connaissent ça, c'est impressionnant. Enfin, moi, j'en ai joué un comme ça qui s'appelait Lassner, qui se défend. Mais enfin, il se défend pas parce que lui, il plaide pour revendiquer la peine de mort. Donc c'est autre chose.
Oui, moi, il est sûr de
gagner. Oui, il est sûr de. Oh, pas mal.
Hein?
C'est fait exprès.
Oui.
Le jeu de mots.
Oui.
Ah, bravo.
Ça vous plaît?
Ah, bah oui, il est sûr de son coup pour un mec qui se fait.
Ah, ouais, c'est
magnifique. Oh, magnifique.
Alors, vous avez déjà joué Molière.
Ça, vous allez vite.
Hein, assez vite. Oui. Déjà joué Molière, L'école des femmes il y a 10 ans, Les Fourberies de Scapin aujourd'hui. Non, Les Fourberies de Scapin il y a quelques temps aussi, c'était d'ailleurs à Avignon. Aujourd'hui, Le Malade imaginaire, une pièce pas comme les autres, liée à la mort de Molière, bien sûr. Qui n'est pas mort sur scène, comme on nous l'a enseigné à l'école, mais qui est mort quelques temps après. On y pense?
C'est-à-dire que beaucoup de metteurs en scène y ont pensé. Le problème, c'est que ça met une espèce de chape de plomb sur l'idée de comment on veut raconter cette histoire. C'est-à-dire que effectivement, le problème de cette pièce, c'est que il ne l'a joué que 4 fois et il est mort après. Donc, imaginez que Molière soit mort après avoir joué 4 fois le bourgeois gentilhomme. Homme, je suis du Midi, c'est pour ça que j'ai le bourgeois gentilhomme. Jamais on aurait envie de monter le bourgeois avec autant de légèreté. Là, en bien lisant, travaillant sur le texte, en lisant tout autour, quoi, je me suis aperçu que ce qui était important, c'était d'être fidèle à l'idée de l'auteur. Et Molière, à cette époque, effectivement, est malade, mais malade depuis longtemps. Et c'est pas ça qu'il veut raconter. Il veut raconter justement le pouvoir que peuvent avoir certains médecins sur la fragilité mentale de ces patients.
Voilà. Cette histoire d'accent, vous venez de dire le héros et tout ça. Vous l'avez encore de temps en temps?
C'est-à-dire, je ne l'ai pas perdu tout à fait l'accent parce que tant que mes parents étaient là, je pouvais pas dire à ma mère allô, bonjour maman, comment vas-tu? Je disais bonjour maman, comment tu vas?
Non, voilà. C'est pas vrai.
Ben oui, je pouvais pas. J'avais l'impression de me parjurer.
Quand vous êtes arrivé à Paris, cette question d'accent a été problématique pour vous?
Non, pas tellement parce que non. J'ai retrouvé mon accent en me retrouvant finalement. C'est quelque chose qui était... Voilà, c'est quand on arrive de province, quelle que soit la province d'où on arrive, si on arrive d'une province qui a un accent marqué, on est obligé de faire gaffe. Ouais.
Nicolas Garder, pas de problème de votre côté?
Non, mais en entendant Daniel Auteuil prendre l'accent, ça m'a rappelé le bossu.
Ouais. Donc, pas le bossu.
Non. Non, le bossu, c'est le bossu de Notre-Dame, non. Si vous voulez faire une référence.
Le bossu? Le film de Broca, je crois.
Ah, oui.
Vous avez joué le rôle de Lagardère.
Oui, je joue Lagardère.
Et vous jouez avec l'accent. Si tu ne vas pas de Lagardère. Ira à toi.
Non. Je fais le
bossu. Je vous vois en train de
votre
le
accent
faire.
Vous
vous confondez peut-être avec Manon, je t'aime d'amour.
Non, le bossu. Vous avez joué dans le bossu?
J'étais le bossu. Le bossu de Notre-Dame, oui, absolument.
Non, mais pas le bossu de Notre-Dame.
Ah oui, non, c'est
non,
moi.
Non. Plus...
non, je suis traumatisé comme des millions de.
C'est vrai, par cette histoire.
Bah oui, par une allumette quand même. Non, c'est traumatisant.
On va revenir sur vos parcours à tous les. On va parler bien sûr de ce livre et du parcours de Nicolas Garder. On vous a demandé des sons qui ont marqué votre vie. Un son de la vie numéro 1 pour vous.
Moi,
Daniel Auteuil, ouais.
Ça, c'est le vagissement d'un bébé, c'est
ça? Non, pas du tout. C'est un cri de jouissance.
Ah bon? Ah
oui,
bon, ah bah, j'ai jamais eu ça. Jamais cru ça.
Jamais entendu ça.
C'est, je veux dire, c'est l'amour avec un canard ou bien?
Je ne sais pas. C'est Juliette Médevielle qui a une vision très particulière de la sexualité, manifestement.
Ah oui, oui, très
qui
bien.
Nous a trouvé ce son.
Oui, très bien.
Ah, son de la jouissance, pourquoi l'avoir choisi?
Parce que c'est un miracle, d'entendre ça.
Donc... Ah bah là non. Là, c'est pas un miracle. C'est autre chose qui s'est passé.
Oui, mais là, je ne sais pas. Oui, mais c'est pas, enfin, celui-là, je ne l'ai jamais connu. Je l'ai jamais entendu. Mais non, on m'a demandé trois sons importants, ouais. C'est ça. Ben, je oui, c'est ça. C'était celui-là, il est important effectivement parce que c'est un.
Vous avez beaucoup joui dans votre vie.
Non, moi, je
très
parle
peu.
Pas. Non, je parle pas de ça. Je parle de sons, des sons qu'on entend. Je ne suis même pas. Je suis pas en. Je suis pas en cause là-dessus. C'est un son qui est qui peut être miraculeux quoi. C'est quelque chose de très beau et magnifique et précieux.
Ouais, c'était pas le cas dans celui qu'on a trouvé.
C'était l'histoire d'un canard qui avait du plaisir là.
Un son politique pour vous, Nicolas Gardère.
Bonsoir. La nouvelle nous est parvenue il y a 20 minutes à peine sur nos téléscripteurs et nos ordinateurs. Je vous lis le texte de cette dépêche. Le dictateur roumain Nicolae Ceaușescu et sa femme Elena ont été exécutés lundi au terme d'un procès secret pour des crimes particulièrement graves contre la Roumanie. C'était Radio Bucarest qui l'annonçait.
Le 25 décembre 1989. Pourquoi ce son, Nicolas Gardère?
Alors pourquoi ce son? Bah, j'ai 7 ans et c'est le premier souvenir politique. Souvenir d'actualité que j'ai. Et ce qui m'a frappé, déjà il s'appelle Nicolas.
Ouais.
Il n'y avait pas tant des Nicolas à l'époque. Nicolas II, ça a mal fini. Nicolae Ceaușescu, ça finit mal. Je m'appelle Nicolas pour
ça finira
les
mal.
Auditeurs. Je sais pas, j'espère pas. En tout cas, bon, ça finira forcément mal. Mais j'espère de manière moins violente que Nicolas II ou Nicolae Ceaușescu. Mais au-delà du clin d'œil sur le prénom, j'ai été extrêmement choqué. À l'époque de la violence de cette séquence, chez ces images où on les voit tout piteux avec Elena à leur procès, en train de leur faux procès, ça a duré une heure, et puis ils ont été exécutés dans la foulée. Et j'étais parfaitement informé de tous les crimes du régime, etc. Mais je trouvais que la façon, avec mon raisonnement de 7 ans, hein, je trouvais ça inintelligible, incroyable. Qu'on puisse comme ça les tuer après un procès expédié. Enfin, je trouvais ça fou et quelque chose de d'un sentiment d'injustice est né aussi, je crois, à ce moment-là et peut-être le goût de défendre ceux qui sont vraiment
inacceptables
au bord du gouffre, quoi, qui sont d'un seul coup totalement rejetés, soit qu'ils l'aient toujours été, soit qu'ils chutent. J'avais envie de défendre. Sans aucune vocation d'avocat à l'époque, hein, c'est venu très tardivement, enfin en tout cas beaucoup plus tard. J'avais pas de vocation infantile à être avocat, mais je sais pas, j'avais envie d'être aux côtés des Ceaușescu à ce moment-là.
Et aujourd'hui, vous êtes aux côtés de qui?
Écoutez, aujourd'hui, je prends un peu de
recul,
repos,
c'est vrai,
de repos et de recul, enfin. Chose égale par ailleurs.
Vous avez été le défenseur de Serge Ayoub, vous avez été le défenseur d'Éric Postlaïc, vous avez été le défenseur
de Conversano, de tout un tas d'islamistes assignés à résidence, etc. Disons que ce voyage, c'est pas un testament. Ce voyage, c'est un bilan qui permet aussi une petite pause et une petite prise de recul. Parce que l'exercice de ce type de défense, de ces dossiers-là, c'est quand même pas toujours simple à vivre et à assumer. Psychologiquement, c'est exigeant, c'est violent. Et donc, oui, en ce moment, je suis plutôt, disons, un peu en recul, en tout cas, par rapport à tout ça, par rapport à des affaires aussi violentes.
Que vous avez pu défendre. On va revenir sur ces affaires.
Qu'on comprenne bien, parce que je ne veux pas remettre en cause tout ce que j'ai écrit, tout ce que
j'ai
fait.
À aucun moment.
Je suis juste un peu en pause, disons, parce que voilà, j'ai besoin de me reposer psychologiquement par rapport à tout ça.
De ce que vous avez vécu. On va y revenir. Un son de la vie, presque. Hein. Numéro 2 pour vous, Daniel Auteuil. C'est pas un cri de jouissance, c'est une agonie. C'est vrai qu'on a trouvé des sons très.
Mais j'ai très parlé. Ça aussi, c'est une oie qui agonise. Mais je ne sais pas où
c'est. C'est la
vie de la ferme. Ces sons sont pathétiques. Ça correspond nullement à
l'idée que vous en avez.
Mais
la mort est beaucoup plus prosaïque, peut-être.
La mort, c'est un souffle.
Vous l'avez joué d'ailleurs.
Oui, souvent. C'est pas un truc.
Avec un cri?
Non, oui, alors ça dépend. Si c'était un... Oui, il y a eu. Je suis effectivement mort de mort violente et je pense que j'ai dû crier, j'ai dû faire ah un truc comme ça, comme quand.
Mais vous savez, mais oui, c'est un truc... on va le garder son, puis ça nous servira si quelqu'un nous demande.
Non, mais ce qu'il y a de formidable dans le métier d'acteur, effectivement, c'est par rapport à toutes ces choses-là, c'est-à-dire la vie, l'amour, la mort. C'est que tout ça est terriblement lié à l'enfance et à l'imaginaire. C'est-à-dire, je me souviens enfant de courir sur la plage et de jouer aux soldats et de mourir comme ça et de tomber sur le sol et chaque fois que j'ai en tant qu'acteur à avoir affaire à ce genre de truc, c'est l'enfance qui revient et voilà c'est la chance de ce métier-là qui est tellement différent de tous les autres, c'est-à-dire que nous jouons, voilà, nous jouons avec nos mémoires, avec les sentiments qui sont pas les nôtres, qui sont les sentiments des autres.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide. Perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, pressés de rejoindre son cœur. Tu te lances dans sorte.
Les bruits de la ville, signés et chantés par le duo électropop Voyou et Yel.
France Inter.
Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade?
Oh. Comment, coquine, si je suis malade, impudente!
Et votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.
Mais c'est pour moi que je lui donne ce médecin.
Laurent Goumard.
C'est moi votre médecin ce soir,
oui, Daniel Auteuil.
Et c'est vous qu'on entend en arguant le malade imaginaire de Molière face à Toinette, joué par votre fille Aurore du théâtre en famille, comme au temps de Molière. Première fois que vous jouez ensemble, je crois.
Oui, au théâtre, oui, c'est la première fois. Oui,
ah
oui.
Bon, ailleurs?
On avait fait, elle était petite fille, elle avait fait ma fille dans le film le 36 qui est des Orfèvres. Voilà, on avait une scène comme ça.
Une appréhension de part et d'autre?
Oui.
Parce qu'elle est à égalité, hein. Toinette et Argan, c'est quand même le couple de la pièce. Bien sûr.
Mais moi, j'avais une évidence. C'est-à-dire, je l'avais vu, j'ai attendu longtemps, et puis je l'ai vu jouer souvent au théâtre sans moi. Donc, je savais que elle était faite pour ça et pour ce rôle-là. Elle, c'était à la fois jouer avec son père, c'est-à-dire,
un monstre sacré. Oui, c'est moi qui le dis.
Ah bon, ça, c'est bon. Bah écoutez, un monstre. Oui, jouer avec son père et en même temps, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais obéi. Et donc, il fallait qu'elle m'obéisse là pour la première fois de sa vie. Donc je plaisante. Oui, c'était impressionnant. C'était impressionnant pour tous les deux. En fait, et c'est impressionnant aussi pour moi le soir de plus en plus parce que elle prend son envol et au fond, je me repose parfois sur elle, et c'est très émouvant à vivre ça, quoi. C'est-à-dire de partager ça avec son enfant, quoi. C'est un truc très beau.
Vous aviez déjà joué vous avec vos parents, qui étaient acteurs, lyriques.
Oui. J'étais joué non, mais on était ensemble sur scène. Donc je sais l'espèce de confort, de cocon, de privilège que ça représente d'être maquillé et déguisé dans des drôles de costumes dans un endroit où il peut rien vous arriver parce que tout était prévu et en plus avec ses parents, c'est une double.
Vous jouiez quoi quand vous étiez enfant?
Quand j'étais petit, moi je jouais les enfants. Dans Carmen, il y a des enfants qui chantent nous marchons la tête haute comme des petits soldats. J'étais le fils de Madame Butterfly souvent. Dans Rip, il fallait un enfant. Rip, c'est une opéra comique que plus personne ne connaît. Mais donc voilà, chaque fois qu'il fallait un enfant, j'étais l'enfant, voilà.
Alors aujourd'hui, vous êtes l'adulte, même s'il a un caractère d'enfant, manifestement d'enfant tout puissant et capricieux dans cette mise en scène, que vous signez, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous signez une mise en scène, c'est la troisième, je crois, j'ai pu compter.
Oui, ouais, oui, c'est ça.
Être dirigé par les autres, c'est plus possible?
comment dire ça? Ça dépend, au fond, aujourd'hui, j'ai envie de raconter les histoires de mon propre point de vue, voilà, pour dire ça.
Pas avoir la vision d'un autre metteur en scène qui aurait son malade imaginaire.
Voilà, c'est ça.
Et alors, votre malade imaginaire, c'est lequel?
Ah, c'est celui-ci, c'est ce que je présente, c'est-à-dire une espèce de vieil enfant tyrannique qui se sert de sa maladie pour terroriser tous les gens qui sont autour de lui, sa femme, ses enfants. C'est un type effectivement terriblement angoissé, capricieux et pénible. Et forcément, il est persuadé d'être malade et les médecins se jouent de lui et l'utilisent. Et il est le jouet des médecins. Et en même temps, c'est un type qui est en bonne santé puisque
très bonne santé.
C'est ça que je veux montrer, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'énergie. Il a envie de sauter sa femme tout le temps, il a envie de manger, il a envie de boire, il a la force pour gueuler.
De se traîner par terre, de faire tout et n'importe quoi
de faire tous les caprices, oui. Mais en même temps, il peut mourir des remèdes qu'on lui donne. Quoi. Voilà. Donc tout est dit.
Vous n'êtes pas hypochondriaque, vous?
Un petit peu.
Comme tout le monde?
Comme tout le monde.
Nicolas Gardère?
Vraiment
non.
Pas.
Non, ah ouais, non, il a l'air en pleine forme et sûr de sa santé.
Non, en tout cas, je ne suis pas hypochondriaque. Parfois un peu là, mais pas hypochondriaque.
Il est un peu dépressif.
Oh, pas du tout, il n'a pas l'air.
J'aurais dit mélancolique.
Ah oui, littéraire. Pour se tenir, oui, ça crée un rôle.
Splinétique.
Alors Molière, on le sait, ça a été important dans votre parcours. Il y a eu plein d'autres auteurs, mais Molière particulièrement important. Avignon en Scapin, cour d'honneur en 90. Vous vous souvenez de cette cour d'honneur à Avignon?
Oh, et comment? Je m'en souviens d'autant mieux que je suis avignonnais d'origine.
Ouais.
Alors je vous raconte un petit peu, je suis avignonnais donc, et effectivement, enfant, je voyais passer tous ces acteurs, tous ces grands acteurs. Et je me souviens, ma mère travaillait l'été comme ouvreuse au festival. Et il y avait un type, un acteur comme ça, qui s'appelait Gérard Philippe. Je le fais exprès. Et je me souviens d'avoir dit à ma mère, je sais pas, j'étais attiré, j'avais envie. On jouait le Cid ou je sais pas quoi. Et je disais, maman, j'irais bien voir ce soir, tu veux pas m'amener? Et elle me disait, non, tu vas t'embêter. Comme dit l'autre, le désir naissant de la frustration. Donc, je n'ai eu de cesse que de faire ce métier. La Cour d'honneur, la première fois la Cour d'honneur, c'est en 90, sous George Wilson, dans une pièce de Edward Bond qui s'appelle Early Morning, mais dans laquelle je fais très peu de choses. Ouais. Mais déjà, ce très peu de choses me rend fou de bonheur.
À quel moment, quand vous êtes jeune acteur, quel type d'acteur vouliez-vous être à l'époque? Parce que ça n'a pas été facile. Hein. Le succès est arrivé un peu plus tardivement. Vous avez confiance un peu plus tardivement.
Pas si tard que ça, mais il n'est pas arrivé sous l'apparence que je souhaitais. Moi,
l'apparence, c'était quoi?
Moi, c'était les personnages de. J'étais un grand romantique. C'était les personnages de Musset. C'était les grands jeunes premiers. Mais dans les années, début des années 60. Je correspond pas du tout aux critères de l'époque. Voilà. Donc c'est la comédie m'a permis de travailler et d'être reconnu dans ce métier. J'ai fait des comédies qui ont eu du succès.
Énormément de succès.
Oui, énormément.
Vous avez eu peur d'être enfermé dans ce registre-là?
En tout cas, j'ai veillé très tôt à imposer ce pourquoi j'avais décidé de faire ce métier, c'est-à-dire des rôles différents, des rôles plus intérieurs. C'est-à-dire que autour de 30 et quelques ans, j'ai eu envie de choses au premier degré, c'est-à-dire de vrais sentiments, de plus être dans la comédie. Et j'ai arrêté pendant un an, j'ai refusé des comédies. Et
pendant un an.
Pendant un an, oui, c'est très. C'est-à-dire, j'ai pas travaillé pendant un an. C'était un truc assez angoissant. J'ai fait des films plus ou moins réussis, mais bon, qui me permettaient de vivre. J'étais heureux de les faire. Je revendique absolument tous les films que j'ai faits. Jusqu'au jour où il y a eu ce truc miraculeux qui est arrivé, ce fameux Jean de Florette, quoi. Voilà, qui a tout changé. Mais j'étais jeune encore.
Et le regard du cinéma a changé sur vous?
Le regard du cinéma, du public, de la presse. Et puis,
comme cinéaste, André Téchiné est arrivé
bien après. Ouais. Car celui qui change au fond les choses, c'est Sauté. C'est-à-dire que mais il me demande.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu trois trucs importants. Le premier passage, ça a été Claude Zidi et ses fameux Soudoués qui me font connaître de la France entière. C'est un énorme succès populaire. Ensuite, il y a ce film de Claude Berry qui fait c'est vrai, c'est un truc dans le monde entier. C'est comme ça qui me fait découvrir, qui fait qu'on découvre que je peux jouer d'autres choses. Et Sauté, qui n'a pas vu les films de Pagnol, de peur que ma composition le déstabilise. Ah ouais. Oui, il était compliqué.
Il était très colérique.
Oui, très très très. Et donc. Si vous voulez, ces trois choses ont fait que j'ai décliné tout au long de ma carrière les mêmes sortes. Il n'y a pas 36 000 rôles, hein, mais j'ai décliné ces personnages et nous voilà aujourd'hui où je continue.
Ouais.
Ouais, tranquillement.
Tranquillement. Non, pas véritablement. Quand on vous voit sur scène, c'est pas aussi tranquille que ça. Le Malade Imaginaire, c'est au Théâtre de Paris. Vous restez avec nous, car tout de suite, c'est l'heure du questionnaire 100% France Inter pour vous, Daniel Auteuil.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Ça, c'est normal.
Mais tellement rare aujourd'hui.
Donc tout de suite, rien que pour vous, Daniel Auteuil, c'est le questionnaire 100% France Inter, avec des questions des stars de la chaîne qui ont déjà servi, et comme on est écolo, nous aussi, il n'y a pas que vous, hein, Nicolas Gardner, comme on est écolo, nous aussi, on recycle les questions. Trois questionnaires, vous choisissez le vôtre. Il y a l'envers du décor, un homme pressé ou coup de chapeau.
Un homme pressé.
On y va, première question, celle de Augustin Trapenard.
La première fois que vous êtes vu sur un écran de cinéma, vous vous souvenez?
Et alors, oui, je me souviens. Alors, mais en revanche, je me souviens pas du tout ce que je lui ai dit. Mais je me souviens que la première fois, j'ai pas aimé ça. Est-ce que j'ai pas aimé ça? Oui, ça fait bizarre. C'est-à-dire, c'est comme de s'entendre aussi la première fois. C'est pour ça que, au fond, le théâtre a ceci de particulier, c'est que on échappe à soi-même. Et j'ai eu le et c'est pour ça aussi que je me fais pas filmer au théâtre. C'est-à-dire, ah bon, je n'ai pas de pièces qui sont filmées. Parce que ce sont deux exercices totalement différents. Oui, donc la première fois, il faut faire court peut-être à vous répondre. La première fois, oui, une espèce de malaise, me dire, mais c'est moi, lui, voilà.
Deuxième question, Eva Bester.
Chagall est mort à 97 ans, après une journée entière de travail dans son atelier. Est-ce que c'est comme ça que vous aimeriez mourir, après une journée de création?
Daniel Auteuil.
Moi, j'ai dit que je mourrais pas de toute façon.
Bon, on est deux. Ah, ben moi aussi.
Oui, c'est ça. Donc, je vois pas du tout ce que
ce qu'elle peut vouloir dire.
Non. En tout cas, c'est sûr que je travaille beaucoup.
Oui. Antoine de Caunes.
Les ados disent souvent :« Je suis au bout de ma life. » Alors, c'est curieux d'être à la fin de sa vie, hein, à 16 ans. Mais question à la Mireille Dumas : étiez-vous ce genre d'ado ?
Non, jamais. Non. J'ai toujours été au bout de rien. J'ai de la force pour quand j'arrive au bout du bout de sauter à l'autre bout. Non, les bouts, je suis pas quelqu'un de la fin.
Du bout. Vous restez avec nous, Daniel Auteuil, on va parler.
J'ai pas osé le dire, mais je vous ai.
Je vous ai vu. Vous étiez sur le point, presque épargné. On va parler avocat, affaires et politiquement incorrect avec Nicolas Gardère dans quelques instants. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. The One, c'est le titre, mais c'est elle aussi, Georgia Smith, la nouvelle princesse de la soul anglaise dans le NRV ce soir.
Rendez-vous.
L'avenir reste ouvert à la France. Cependant, sans un sursaut du peuple pour s'arracher à la molle torpeur de la décadence et du renoncement, celle-ci serait alors irrémédiable.
Le nouveau rendez-vous.
La volonté souveraine peut sauver notre pays du plus grand risque, la perte de son indépendance.
Un discours de Jean-Marie Le Pen en 2002 pour ouvrir ce plateau avec vous, Nicolas Gardère. Jean-Marie Le Pen qui vient de faire ses adieux hier au Parlement européen. En 2002, qui étiez-vous, Nicolas Gardère, pour que Jean-Marie Le Pen devienne le fondateur de votre parcours d'avocat?
J'étais déjà de gauche et je voyais déjà le Front National et Jean-Marie Le Pen comme la principale menace pour notre démocratie libérale. Donc c'était un ennemi politique et c'était très clair. Après, j'ai la particularité de ce parcours personnel, qui est aussi le parcours de celui qui allait devenir avocat, c'est que ces années-là, quand j'avais 20 ans, enfin, j'ai passé mes 5 années de fac chez mon grand-père.
Et
mon
grand-père
était, voilà, Raymond était électeur du Front National, plutôt fan de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, je lui demandais qu'on aille ensemble à des meetings, genre pour voir ce que c'était, pour voir qui étaient ces gens, voilà. Il collectait tous les signes que je pouvais collecter dans ce contexte tellement exotique, qui est celui d'un meeting du Front National. Et voilà pourquoi est-ce que Le Pen, parce qu'au fond Le Pen d'une certaine façon c'est mon grand-père que j'aime, qui j'ai débattu pendant 5 ans tous les jours exclusivement de politique au fond, et j'aime mon grand-père, je déteste ses idées, et c'était comment réussir à concilier au fond voilà cette relation d'amour pour mon grand-père et une détestation politique, et au fond c'est cette sorte de métempsychose Le Pen Raymond qui m'a aussi conduit à chercher à rencontrer Le Pen. Je l'ai interviewé dans le cadre de mon mémoire de fin d'études de sciences politiques, parce que j'ai fait de la science politique en parallèle de mes études de droit, et donc j'ai interviewé Le Pen et je me suis intéressé au cas Le Pen. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises par la suite, ce que je raconte dans le livre.
Ouais,
et donc
ouais,
en fait Le Pen a une place centrale, parce que c'est comme disait Marguerite Duras sur tous les matins en me levant je tue Le Pen dans ma tête, moi aussi, sauf que Le Pen c'est mon grand-père et que j'aime mon grand-père. Voilà toute la complexité
de ce parcours. Alors Nicolas Gardère, vous signez Voyage d'un avocat au pays des infréquentables. Vous êtes engagé à gauche, ancien conseil de la Ligue judiciaire de défense des musulmans et de riposte laïque. Vous signez un récit parfois, mais vraiment hilarant, sur votre parcours d'avocat lié au mouvement notamment d'extrême droite. On peut citer quels ont été quelques-uns de vos clients. Rapidement, Serge Ayoub, on le disait tout à l'heure.
Oui, j'ai notamment été l'avocat de Serge Ayoub dans le cadre de l'affaire de la dissolution des ligues de Serge Ayoub suite à la mort de Clément Méric. J'étais l'avocat de Riposte Laïque, donc site internet anti-musulman ou islamophobe bien connu, qui m'a d'ailleurs retiré mes dossiers, les dossiers que j'avais pour eux à partir du moment où j'ai commencé à défendre la Ligue de défense judiciaire des musulmans.
Des musulmans, ouais.
J'ai par ailleurs défendu le militant youtubeur suprémaciste blanc Daniel Conversano, peut-être un peu moins connu du grand public, mais pas moins vigoureux dans ses propos. Voilà, j'ai aussi l'avocat du STRAS, enfin je suis toujours l'avocat du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Syndicat de prostituées. Voilà. Donc, le point commun, c'est d'abord des thématiques, des dossiers et une branche du droit qui sont les libertés fondamentales. C'est-à-dire que je défends les libertés fondamentales. Il se trouve que les fascistes, les islamistes, les putes ont plus souvent besoin de voir leur liberté fondamentale défendue que le citoyen lambda, propre sur lui, bien gentil.
Comment êtes-vous perçu dans le milieu des avocats? Notamment par rapport à ce livre qui retrace donc votre parcours, qui retrace aussi votre enfance, avec donc cette famille, hein, Raymond qui est d'extrême droite, le père qui est de droite, mais une droite mollassonne, selon le grand-père, on peut bien comprendre ce que cela signifie.
La
fausse droite pour votre grand-père. Ouais. Comment s'est perçu votre parcours dans ce milieu-là?
Écoutez, les échanges que j'ai pu avoir avec des confrères, néanmoins amis, sur ce livre étaient bons. C'est-à-dire que les avocats, je crois, comprennent tous la logique. C'est-à-dire que dans ce bouquin, j'ai aussi voulu mettre une dimension que je pourrais qualifier de pédagogique. C'est un peu le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais en fac de droit. De la même façon que quand j'ai enseigné ou quand j'enseigne, j'essaye d'être le prof que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant.
Qu'est-ce que véritablement un avocat?
Voilà, c'est-à-dire essayer d'avoir une démarche aussi un peu modélisante par rapport à ça, dire voilà, je suis de gauche, je défends des fachos. Autant on est habitué à voir des pénalistes de cour d'assises défendre des violeurs pédophiles, des criminels, des Jean-Claude Roman, etc. Autant sur le plan des politiques, des affaires plus politiques, ce sont généralement des militants de la cause, des avocats militants de la cause qui vont défendre ses clients. Généralement, l'extrême droite est défendue par des avocats d'extrême droite. C'est généralement le cas. Et ben, j'ai voulu aussi montrer que non, pas nécessairement, qu'on pouvait tout à fait être de gauche, tout à fait droit dans sa robe et sans jamais avoir à défendre le début du commencement des opinions de ses clients et les défendre efficacement, c'est-à-dire en défendant sur les principes, sur les libertés fondamentales, sur l'essentiel, sur ce qui nous concerne tous.
Daniel Auteuil, vous comprenez cela ? Est-ce que par exemple vous, en tant qu'acteur, il y a des rôles que vous avez refusés parce que pour vous ils étaient indéfendables ?
Oui, sûrement, bien sûr.
Ah oui.
Mais parce qu'ils étaient mal écrits.
Ah d'accord, voilà. Oui, pas par rapport à la personnalité
Non, pas par la... En revanche, il y a des... Oui, c'est ça, c'est en fonction vraiment effectivement de la qualité artistique plus qu'autre chose.
Vous dites dans le livre, je ne suis pas fasciné par mes fachos, mes islamistes, par mes clochards, même pas célestes, ou par mes queers. C'est-à-dire que généralement, pour que l'on puisse comprendre le fait qu'un avocat défende ce genre de cause, on pense qu'il est fasciné par les sujets qu'il traite, c'est ça ? La seule explication, c'est la fascination.
Non, en fait, je suis fasciné par la robe. Je suis fasciné par le métier d'avocat, par la robe, par le pouvoir et la responsabilité que nous donne... nous impose, nous inflige. Cette robe, ça me fascine. Cette idée d'être, au fond, seul pour défendre un individu qui est réprouvé, qui est rejeté par tous. Je reviens, ce que je disais sur Ceausescu tout à l'heure.
Ouais.
Ça me fascine. Ça me fascine.
Pour autant, vous avez été, non pas instrumentalisé, le mot est très fort, mais vous avez été, on va dire... vous avez participé à des émissions de radio, vous avez participé à des chaînes justement dirigées par des gens d'extrême droite. Vous étiez à l'intérieur de ces débats pour jouer l'homme de gauche.
Oui, bien sûr.
Donc c'est autrement que la robe, en fait.
C'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de l'avocat. C'est-à-dire que ce livre parle de deux choses. Il y a être un avocat et défendre les libertés fondamentales de tous, défendre un individu face au juge pénal.
Même si vous choisissez systématiquement, j'ai été attiré par les marginaux, les freaks, les infréquentables, les stigmatisés, les dingues, les martyrs, les gens bizarres, les fous, c'est-à-dire les gros producteurs de signes. Parce que vous êtes sémiologue par ailleurs, on n'y reviendra pas.
Très
d'accord,
amateur.
Okay.
Enfin, oui, donc il y a cette dimension-là, il y a cette problématique de l'avocat. Après, il y a aussi la problématique du citoyen, du militant politique, si vous voulez. C'est le constat, ça fait longtemps que j'observe et que je regarde, m'intéresse à ce qu'est l'extrême droite en France, et je n'ai vu, malgré soi-disant cordon sanitaire, en tout cas une stratégie qui était celle de l'exclusion, du refus du débat avec l'extrême droite, je n'ai vu l'extrême droite qu'augmenter, que monter. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en 2002, Le Pen fait 16% au premier tour et la même chose au second tour, tout le monde est dans la rue, drame national. 15 ans plus tard, Marine Le Pen arrive au second tour, fait le double du score de son père, et on se réjouit qu'elle ait fait un si faible score et qu'elle ait été nulle au débat. Et je trouve qu'il y a eu un glissement qui est absolument effrayant. Et je considère donc que la stratégie vis-à-vis de l'extrême droite a été un échec, celle qui a été tenue pendant longtemps a été un échec, et qu'il faut oser affronter, réaffronter, se remobiliser intellectuellement.
Et c'est pour ça que vous alliez à l'intérieur de ces débats. Sur quelle chaîne c'était ?
C'était une web télé, c'est une grosse web télé qui s'appelait TV Liberté.
Vous aviez qui dans les plateaux, par exemple ?
Alors, j'ai débattu contre Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, Dupont-Aignan, Alain de Benoît, enfin, tout le banc et l'arrière-banc des politiques, intellectuels, journalistes, disons, de droite extrême et d'extrême droite. J'ai fait ça pendant plusieurs années dans une émission qui s'appelait Bistrot Liberté. Donc, il y avait un invité différent à chaque fois, tous les 15 jours, et puis il y avait ce qu'ils appelaient des sociétaires, qui étaient tous des intellectuels ou journalistes d'extrême droite, et puis il y avait moi. Donc évidemment que le...
Seul contre tous, en fait, ouais, une sorte de Zorro.
Bien sûr, mais ce que je veux juste dire, c'est que déjà, j'étais pas dominé dans les débats.
Ah non, pas du tout.
Donc c'est quand même important de le rappeler, sinon là, j'aurais vraiment été l'idiot utile parfait, qui est punching ball, qui se fait massacrer, etc., pour bien montrer que la gauche, c'est nul, et que nous, les fachos, on a raison. Non, c'était pas ça, l'équilibre des forces. Toujours est-il que ça m'a paru être une mise en application, imparfaite, ambiguë, forcément ambiguë, mais une mise en application des principes que j'essaye d'appliquer. Moi, je me réclame totalement de penseurs comme Martin Buber ou Jürgen Habermas. Donc, toutes les problématiques de le débat, l'interaction, le fait de créer une interaction plutôt que rien, un espace psychique entre deux individus, même dans un contexte très loin de l'optimum habermasien. Mais au moins, il existe ça plutôt que rien. Et c'est ça que j'ai essayé de faire.
Pour autant, il y a des limites. Dans la vie personnelle, par exemple, à un moment donné, vous tombez amoureux d'une jeune femme qui vient d'un milieu avec lequel vous ne pourriez pas vivre, en fait.
Alors,
comme quoi on peut débattre avec des extrémistes, mais on ne peut pas épouser la fille de quelqu'un qui vote pour, enfin qui manifeste pour la manif pour tous.
Oui, oui. Après, peut-être qu'on peut.
Oui, en tout cas vous non.
En tout cas moi non.
Après, donc vous avez des limites dans la vie personnelle.
Ce chapitre est largement allégorique, mais ouais. ce que je voulais dire par là, c'est toute chose égale par ailleurs. Je me compare pas à Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss n'a pas été heureux sur ses terrains. Il n'a pas été heureux chez les Nambikwara. Il y allait parce qu'il devait y aller, mais il n'a pas voulu y passer sa vie. C'était pas sa vie. Ouais, ma vie, elle n'est pas avec l'extrême droite. Enfin, j'ai repris mes billes, quoi. J'ai fait tout ça. Je suis allé loin, sur le terrain. C'était un vrai terrain ethnographique. Et puis voilà. Et puis j'ai fini mon terrain. Ça m'empêchera pas à nouveau de défendre dans des affaires de liberté fondamentale, de défendre des militants d'extrême droite, mais en tout cas tout le côté voilà TV Liberté, tout ça j'ai arrêté. Et puis la fréquentation à haute dose de militants d'extrême droite, voilà, c'était un terrain, donc j'ai repris mes billes. J'ai pas envie de passer ma vie avec eux.
Les Gilets jaunes, pourquoi n'avoir pas accepté d'être leur avocat?
On m'a proposé au début du mouvement d'en être sur des affaires d'ailleurs qui étaient intéressantes, hein, sur le plan du droit.
Quel type d'affaires?
Notamment des contrôles préventifs,
ouais.
Totalement illégaux.
Avant les manifestations.
Des arrestations avant manif sur des individus qui ne portaient sur eux aucune arme, rien du tout, juste des masques de plongée, rien de plus. Donc, mais je vous dis, j'avais pas envie. J'avais pas envie de me jeter, parce que je sais que je me serais jeté à corps perdu si j'y étais allé, parce que ça nécessitait ça, vu l'ampleur, vu le besoin d'investissement qu'il y avait. J'avais envie de me reposer un peu après tout ça, et ça tombait pas au bon moment. J'étais pas, voilà, j'avais besoin. Il y a d'autres choses dans ma vie que ce métier d'avocat. Ce terrain, au-delà de la pratique professionnelle, ça a été vraiment un terrain pour moi qui m'a occupé
pleinement. Comme un ethnologue, ouais.
Voilà, qui m'a occupé pleinement au-delà de ma pratique professionnelle d'avocat. Et j'avais envie de retourner chez moi, en fait.
Ça vous inspire quoi, Daniel Auteuil, tout ce parcours?
Notamment... Eh bien, je trouve que c'est un grand spéléologue. Hein.
Ouais, c'est vraiment ça.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est intéressant. Oui,
plonger en terrain inconnu.
Ah, oui, c'est passionnant. Oui.
Alors, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les affaires de droit, il y a aussi votre goût pour la chanson, et notamment pour le rap. Et le passage est vraiment, bien sûr, politiquement incorrect, et c'est en cela qu'il est jouissif. Je lis Booba, Aurel San, Seth Gueco, je ne connaissais même pas. Je peux éclater de rire en lisant des textes de cette brute de Caris. J'apprécie énormément la gratuité un peu surréaliste de ce qu'il écrit. Je leur bouffe la snack pour Mardi Gras, tu t'assois sur mes cuisses, t'es sur pilotis. J'aime les punchlines sales. À cet égard, grand corps malade, moripile. Et Abdelmalik, dont j'avais pourtant bien aimé le bouquin dans lequel il raconte son enfance strasbourgeoise, me donne envie de me taper la tête contre les murs. Nicolas Gardère.
Oui, bah c'est...
C'est-à-dire, quand c'est tiède, mollasson, selon votre grand-père, c'est pas possible.
De manière générale, ce qui est tiède et mollasson, tendance à m'ennuyer. En tout cas, a fortiori dans la création artistique.
Alors après, aujourd'hui, vous écoutez qui?
Comment?
Alors aujourd'hui, vous écoutez qui dans le rap? Parce que vous avez même composé un petit rap aussi à un moment donné.
Ouais. Must a nigga enters in the motherfucking court. Je voulais reproduire l'intégralité de ce petit texte. Parce qu'en fait, j'avais eu une plainte disciplinaire. Parce que j'avais été trop agressif au tout début de ma carrière, trop agressif lors d'une audience. J'avais pris à partie vertement la fausse victime de ma cliente, prétendue victime de ma cliente. Et donc la consoeur n'avait pas apprécié. Parce que quand on est avocat, on n'a pas le droit de s'adresser directement à la partie adverse. On doit s'adresser uniquement à son avocat. Et bon, alors, une petite plainte disciplinaire qui a été classée sans suite après mes explications. Mais oui, je voulais reproduire ça dans le livre, mais l'éditeur a dit non, c'est trop violent.
La violence, il y en a quand même dans le livre. Il en reste aux éditions de l'Observatoire. C'est Voyage d'un avocat au pays des infréquentables. Nicolas Gardère, vous restez avec nous. Daniel Auteuil aussi. Surtout, c'est la dernière partie de la première partie du NRV. Je sais, c'est un peu compliqué, mais ça y est, les auditeurs s'y sont faits.
Vous pourriez mettre un disque?
Oui.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous voulez?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Rebonjour Soro Solo.
Bonjour.
Direction Le Cap-Vert pour le nouvel album de la Cap-Verdienne, Mayra Andrade.
Oui, en effet.
Ou Andrade, on dit quoi?
On dit Andrade.
Ah, j'avais raison du premier coup pour une fois.
Absolument. Et il se trouve que c'est son cinquième album qu'elle a sorti, elle a intitulé Manga. Et elle a voulu inscrire ce cinquième album dans ce qu'on appellerait du panafricanisme. Et donc mettre cet album dans l'univers africain, parce que en 2015, elle est allée au Ghana, en Afrique occidentale, et là-bas, elle découvre le highlife, l'afrobeat, et toutes les musiques afro-urbaines. Donc, à partir de là, elle a décidé de donner une nouvelle couleur à sa musique qui était jusque-là couleur locale, couleur capverdienne. Mais elle a quand même gardé ses racines capverdiennes et en réunissant une série de jeunes, ce qu'on appelle là-bas les producteurs beatmakers, qui sont des jeunes, mais alors là, explosifs et quasiment des incontournables en Afrique occidentale. Et elle a travaillé avec eux pour sortir cet album Manga, cinquième de sa carrière. Et le résultat, ça a donné Manga.
Conosco outras vezes, mais um vez, tanto vez, tanto vez. Pa Maria que nasce e que torna a renasce, mundo flama nasce pa vos.
Alors vous l'avez vu, vous avez eu de la chance d'être allé en concert à Praia, c'est la capitale du Cap-Vert. C'est quoi ce festival? On y voit quoi? Quel genre de choses?
Le Creole Jazz Festival, ils l'ont appelé Creole parce que le Cap-Vert légitimement pense que ce pays est la racine de la créolisation. C'est là où on a réuni les premiers esclaves collectés sur le continent avant de les embarquer pour les Américains. Donc ils ont créé le Creole Jazz Festival qui réunit tous les ans des artistes afro, de l'Europe, des Amériques et d'Afrique. Et samedi dernier, pour clôturer les trois jours de festival sur la grande scène, sur la place qu'on appelle la place Louis Camoes, il y avait un plateau de choix. Oui, Lucky Peterson des États-Unis, Elida Almeida qui est capverdienne mais qui a fait une création avec le Réunionnais Itiloun. Il y avait également un autre Américain, le Stanley Clark. Et bien entendu, pour conclure la soirée, Mayra Andrade, belle, émouvante, dans une belle robe lumineuse, rouge, éclatant, et avec forcément une voix qui est comme une onde électrique qui vous rentre par le bout des orteils, vous sort par la tête et vous ne pouvez que danser. Affetto, ça c'est un extrait de Affetto, le titre d'ouverture de l'album et d'ailleurs le titre avec lequel elle a ouvert son concert de samedi dernier, qui est un cocktail de pop urbaine et de musique traditionnelle afro. Et ce cinquième album de Mayra Andrade a été enregistré entre Dakar, Paris et Abidjan. Et il faut rappeler à nos auditeurs qu'elle sera en concert le 19 avril à l'espace Gérard Philippe à Fontenay-sous-Bois.
Oui, Gérard Philippe, on y revient toujours à Gérard Philippe,
dans le 94. Et le 20 avril, elle sera au Printemps de Bourges.
Et on se quitte tout de suite avec le plus grand flegmatique de la chanson française, Jacques Dutronc, Irresponsable sur France Inter.
J'ai mal aux dents, mais je ne veux pas changer de peau parce que je me les emmerdements.
Le responsable, c'est lui, Jacques Dutronc, en 1970, la programmation pas coupable de Jean-Baptiste Audibert. Le NRV première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Il n'y a personne qui veut voter Benoît Hamon ici.
C'est une blague.
Non, c'est pas du tout une blague.
Journaliste politique, c'est pas du tout une blague. Un retour à la campagne. Le rendez-vous est pris. Alors je vous dis à tout de suite.